7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, avec notre série d'été Vivre en ville. Et aujourd'hui, vivre dans une ville mal aimée, Delhi, en Inde, avec Constantin Simon, correspondant, grand reporter à France 24. Vous tenez le bureau à New Delhi pour l'Asie du Sud et vous êtes installé donc depuis 7 ans maintenant à Delhi. C'est la ville du pouvoir politique, on ne l'a pas encore dit, on n'a pas parlé, mais c'est là qu'est installé le Parlement, la résidence du président, la Cour suprême. Mais c'est aussi la ville du business, hein, ça on va en parler. Et puis, si on est plus riche que ceux qui prennent le bus et pas riche pour avoir une voiture, eh bien qu'est-ce qu'on prend entre les deux ? Le bus et la voiture.
Prends le métro.
C'est ça.
Oui, c'est qu'en fait, il y a quand même peu de gens qui le prennent en comparaison à la densité de voitures et de bus. Mais oui, le métro de Delhi, on va l'écouter, c'est ça ?
Ressemble le métro de Delhi, Constantin Simon, et surtout l'impression des voyageurs.
Alors le métro de Delhi, ce qui frappe quand vous êtes à Old Delhi et que vous descendez à la station de Chandni Chowk, c'est que tout à coup on arrive dans un autre monde. Fini le côté grouillant des rues, des petites rues de Delhi, de la foule. Et alors, il y a quand même des heures de pointe où là, il y a tout d'un coup l'Inde se retrouve à elle-même et ça se bouscule un peu dans tous les sens. Mais en général, voilà, il y a l'air conditionné, il fait frais tout à coup, il fait bon. Une dernière petite description qui, à mon avis, très importante, c'est qu'il y a dans chaque métro de Delhi, il y a un compartiment qui est réservé pour les femmes. Et donc, du côté des hommes, souvent, il y a plus de monde. Tout le monde se bouscule. Du côté des femmes, tout le monde est assis, ça papote. Et quand il y a un homme qui ose pénétrer, mettre un petit pied, parce qu'il n'y a pas de porte, en fait, on peut passer, là, les femmes n'hésitent pas à défendre leurs droits et à chasser cet intrus.
Ouais, ce métro est assez cher, finalement. Hein,
oui, alors
c'est... Ceux qui ont des petits métiers.
Mais en fait, c'est pas cher pour nous, en comparaison occidentale. Mais évidemment, là-bas, c'est un tout petit peu plus, quelques roupies de plus que le bus. Ça change tout, en fait. Et il y a des gens qui ne peuvent pas le prendre. C'est un peu plus luxueux que le bus.
Malgré les embouteillages, parce que le métro va plus vite que d'être en voiture, vu les embouteillages indescriptibles qu'il peut y avoir, malgré certains quartiers avec des larges avenues, d'ailleurs, les riches, eux, ne lâchent pas leur voiture.
Oui, voilà. En fait, en Inde, le transport, la manière dont on voyage, se déplace, c'est un marqueur social, socio-économique. Et donc, les riches et les classes moyennes qui ont la voiture... Tant pis, même s'ils passent une heure à deux heures par jour dans les embouteillages, ils préfèrent ça que d'aller se mélanger aux pauvres, à la cohue.
Il n'y a pas de considération pragmatique.
C'est pragmatique, en fait, c'est un calcul. C'est un calcul d'image.
De garder sa place.
De garder sa place. Il y a d'ailleurs eu tout un combat, en fait, pour les couloirs de bus avec une affaire, un procès entre des riches conducteurs qui avaient estimé que les couloirs de bus les empêchaient d'aller au travail, créaient plus d'embouteillages, ce qui était sans doute vrai. Après, est-ce que c'est légitime ou pas. Enfin, le juge avait décidé que non, les couloirs de bus devaient être réservés aux bus et donc aux pauvres, en fait. Mmh. Et donc, les pauvres allaient beaucoup plus vite que les voitures et on voyait tous ces gens dans leurs petites voitures, mais ils avaient la possibilité d'avoir une voiture, donc jamais. Alors après, en Inde, très vite, les lois sont contournées, dépassées et très vite, les voitures sont revenues dans les couloirs de bus. Et aujourd'hui...
C'est la démographie qui fait la loi, finalement.
Ah oui, ça explose. Il y a tellement de densité de voitures qu'au bout d'un moment... et puis, c'est un rapport, parfois, chez les Indiens plus flexibles aux lois. La nuit, par exemple, à New Delhi, s'il y a un feu rouge, la nuit uniquement, et qu'il n'y a pas de piétons, vous pouvez le passer, les policiers tolèrent.
Alors, avant que la nuit ne tombe tout de même, il faut tout de même aller travailler, un tout petit peu. On travaille en Inde.
Ah, on travaille. Hein, on travaille beaucoup en Inde. Hein. Le peuple indien est un peuple qui travaille, mais qui travaille tard. Évidemment, tout commence un peu plus tard. Si les magasins en France ouvrent, disons, vers 10h, en Inde, ça va être 11h. Les embouteillages, ça commence, on le disait un peu, mais à 8h30, je ne sais pas, 8h30, 8h dans les villes françaises, et
bien
en Inde...
Bien c'est... avant, aux portes des villes.
Et bien voilà, et en Inde, ça, à 8h, 9h, ça roule, mais impec. Et tout d'un coup, vers 10h, là, ça y est, ça commence. Donc tout commence plus tard, on va au travail plus tard, mais on rentre aussi du travail plus tard.
Ça veut dire que vous nous parliez de cette vie avant d'aller au travail. La classe moyenne voit ses enfants avant de partir travailler, par exemple.
Enfin, les enfants n'ont pas les mêmes horaires, toujours un peu réglés de l'éducation à la française. Et donc, ils peuvent se coucher tard. Donc, parfois, c'est vrai qu'ils le voient le soir tard. Mais comme il rentre un Indien, il peut rentrer rentrer chez lui de son travail vers 8h, 9h, 10h. Et donc, ils vont plutôt se voir le matin. Alors après, les enfants partent aussi à l'école. Il y a quand même des horaires pour l'école. L'école ne commence pas à 10 ou 11 heures. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une vie familiale qui est plus celle du matin.
Quand on parle de vie familiale, d'ailleurs, de la cellule familiale, ça veut dire quoi,
Adélie? C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, en Inde, même dans une ville moderne comme New Delhi, les Indiens vivent toujours, la grande, grande majorité des Indiens vivent toujours en famille. Ça veut dire avec toutes les générations. Donc il y a les grands-parents qui sont dans le même appartement. En général, on vit dans la famille du mari. Et donc, il y a 3 générations au minimum. Et les Indiens, il y a toujours 5 à 10 personnes dans une pièce.
Y compris si les femmes travaillent et sont indépendantes, d'ailleurs.
Ça n'a rien à voir avec... évidemment, il y a des couples aujourd'hui. Il y a des migrants aussi à New Delhi. Donc, il y a parfois des couples qui vivent seuls dans des cellules un peu plus réduites. Mais finalement, ce n'est pas tellement lié au milieu socio-économique, à la richesse. Même chez les riches, je dirais, même chez les gens occidentalisés sur certains points. Non, on vit toujours en famille. Et les Indiens aiment ça, ils aiment se tenir chaud.
Et oui, il n'y a quand même pas que les embouteillages à Delhi. Vous nous le disiez au début de l'émission, Constantin Simon, Delhi, contrairement à d'autres villes indiennes, est une ville très verte.
Extrêmement verte. Il y a partout des parcs qui ressemblent parfois à des forêts. Il y a des, malgré les chaleurs, des pelouses, mais extrêmement bien entretenues. Et ça, c'est très important de le rappeler parce qu'on nous décrit en permanence une ville extrêmement polluée, une ville extrêmement grise. C'est vrai que c'est une ville grise. C'est vrai que c'est une ville qui parfois ressemble à un périphérique permanent avec des autoroutes, des ponts.
Mais là, on entend des oiseaux quand même.
Ah oui, voilà, vous avez les deux, vous avez le béton. Et vous avez les arbres avec des forêts pas possibles.
Ils se sont adaptés, les oiseaux y ont survécu, c'est ça, la pollution.
Oui, c'est entretenu, hein, évidemment, et ça n'empêche pas. Il y a des espèces qui se développent, ce ne sont sans doute pas les mêmes espèces végétales qu'en France. Mais c'est une ville très, très, très verte et les gens utilisent énormément ces parcs. Et moi-même, j'aime bien aller me mettre de temps en temps dans un parc, le matin, profiter. Et la température baisse tout de suite dans les parcs. C'est-à-dire que vous perdez 5 à 10 degrés souvent dans un
parc. Alors, on va dans les parc, pas seulement pour faire du yoga, bien sûr, hein, mais pour pratiquer le jogging. Le corps des Indiens à Delhi, d'ailleurs, a un peu changé, vous me disiez.
Oui, tout à fait. Les Indiens grossissent un petit peu, hein, il faut le dire. Il y a des problèmes d'obésité. Alors, vous avez cette image assez touchante, je trouve. Souvent de couples un peu qui ont déjà 60, 50, 60 ans, 70 ans. Ils ne peuvent plus trop courir. Ils sont un petit peu grassouillets. Mais ils marchent. Alors, ils marchent, parfois même main dans la main. Et vous les voyez faire des tours de parc comme ça, c'est assez émouvant. Vous avez aussi le jardin des amoureux, ça s'appelle Lodi Garden. C'est un endroit où il y a quelques buissons et en fait, comme évidemment en Inde, ça ne se fait pas trop de s'embrasser ou d'afficher une attitude de couple, eh bien les gens vont se cacher et vous passez dans ce petit parc de Lodi Garden et derrière chaque buisson, un petit peu camouflé, vous voyez un petit couple comme ça.
Ce qui peut sembler paradoxal dans un pays où la grande majorité des mariages sont encore arrangés, il faut le dire.
Tout à fait, tout à fait. Mais après, il ne faut pas forcément voir les mariages arrangés comme quelque chose de uniquement négatif. Hein. Et puis, il y a toutes sortes d'arrangements. Mais c'est vrai qu'en Inde, un mariage, c'est avant tout l'union de deux familles, pas de deux personnes. C'est la grande différence. C'est deux clans, en fait, qui se réunissent.
Delhi est une ville de migrants. Vous nous l'avez dit au début de l'émission, Constantin Simon. Ça veut dire quoi et pour qui ?
Eh bien, dans mon bureau, par exemple, où il y a une dizaine d'Indiens qui travaillent, pratiquement l'intégralité de ces Indiens, ils sont pas nés à Delhi. Ils sont nés dans d'autres états. Alors, c'est souvent des états du nord de l'Inde, le Bihar, l'Uttar Pradesh, tous ces noms n'évoquent sans doute pas grand-chose à nos auditeurs, mais c'est des gens qui sont évidemment venus de leur village. Attirés par la ville.
L'emploi.
Qui reviennent une fois ou deux par an et qui sont venus. Et c'est ça qui a fait New Delhi, qui est une ville jeune, même si elle a un passé ancien. C'est quand même une ville qui est devenue récemment capitale et qui depuis peu attire des gens. Et
donc, à la place de Calcutta.
À la place de Calcutta, siècle. Exactement, qui était la capitale à l'époque de l'Empire britannique des Indes. Enfin, et puis finalement, à partir de 1911, New Delhi est devenue la capitale de l'Inde.
Ça a toujours été une ville de migrants, où il y a eu là des phénomènes récents, l'argent aussi qui est arrivé à flot ces dernières années.
Alors ça, c'est très frappant à New Delhi. C'est tout de même Bombay, la capitale économique de l'Inde, mais il y a quand même beaucoup d'argent à New Delhi. Et il y a en fait la culture de New Delhi, c'est ce qu'on appelle la culture Punjabi. Les Punjabis sont donc les gens du nord de l'Inde, du Punjab, et c'est des gens qui sont un peu bling-bling, quoi. Il faut que ça brille, les grosses voitures. On voit souvent comme ça des Indiens avec plein de bagues aux doigts, des lunettes de soleil, des grosses voitures. Pourquoi ces gens, pourquoi ces Punjabis se comportent comme ça? Moi, j'ai une théorie. C'est qu'en fait, New Delhi, c'est une ville qui s'est construite avec beaucoup de gens qui sont arrivés après la partition entre l'Inde et le Pakistan, donc en 1947, qui a été un moment traumatisant hein, pour beaucoup de gens. Il y a des gens, des hindous par exemple, qui venaient du Pakistan et qui avaient tout perdu. Donc beaucoup de gens sont arrivés dans cette ville avec plus rien, et il y a peut-être cette volonté de se rattraper.
De se rattraper, de le montrer. Et vous le disiez, c'est Bombay, la capitale économique, mais Delhi est aussi une ville du business, où on peut faire de l'argent, bien évidemment.
Oui, à Bombay, on montre moins son argent qu'à New Delhi. Et ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Il faut bien comprendre qu'il y a, dans le passé, l'imaginaire Gandhi, le modèle néhrouvien. C'est au contraire que des gens qui peuvent être riches, parce que les Indiens sont souvent très riches, mais ne le montraient pas. Et puis, depuis les années 90, je dirais, il y a ce phénomène un peu de Punjabi, qui vient de la culture
le
Punjabi.
Bling bling. Alors, le bling-bling, voilà. Comment on dit chez vous à Delhi? Ça serait quoi le mot? Ça serait
On dit Shining India. C'est d'ailleurs un des slogans qui a été au début des années 2000 pour présenter l'Inde, Shining India. Mais Bling-bling, ça va très bien, ils comprennent tout à fait. C'est les Punjabi, en fait.
Constantin Simon, vous signez le programme musical de vivre dans cette ville mal aimée
qui vous fait danser,
oui, que l'on commence à beaucoup aimer depuis le début de l'émission. Constantin Simon,
Honey Singh, Party All Night, c'est le maître emblématique Punjabi. C'est un rappeur qui a commencé dans le hip-hop et qui fait aussi de la musique pour Bollywood et qui est la star absolue. Alors les lunettes de soleil, les bagues aux doigts, vous avez entendu, il citait les quartiers de Delhi, Gurgaon. C'est vrai que ça pulse,
ça déménage.
Moi je suis devenu, je dois vous avouer que j'ai un petit problème maintenant d'adaptation quand je reviens en France. J'arrive plus à danser à la française, quoi. Faut que ça trémousse, quoi. Faut que ça pulse, faut que ça.
Mais bien que vous ne viviez pas finalement Delhi dans la ville de la musique, vraiment, en Inde.
Non, mais la musique et la danse sont permanentes en Inde, à Delhi ou ailleurs. Dès que vous rentrez dans un taxi, vous avez ce genre de musique. Le taxi, nous, qu'on loue en permanence, c'est lui qui m'a fait découvrir. C'est un Honi Singh, c'est un fan de Honi Singh, Paramjit. Et puis surtout, alors, dès qu'il y a une fête, tout d'un coup, fête au bureau, fête entre amis, avec d'ailleurs des gens qui sont pas de la même classe sociale, tout d'un coup, tout le monde se lâche, quoi. En fait, le moment de la musique, le moment de la danse, c'est cathartique en Inde. Tout d'un coup, il n'y a plus tellement de classe sociale et c'est à qui se trémousse le plus, quoi. Et dans les mariages, vous verrez des gens, mais ils ont tous l'air ivres. Ils le sont d'ailleurs souvent, mais parfois, c'est juste une manière de danser. Voilà, où on bouge beaucoup, on se déhanche les épaules, pas de timidité.
Faire la fête à Delhi, c'est une réalité, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, capitale du viol, bien sûr, avec l'affaire du viol collectif de décembre 2012. Il y a des viols tout le temps en Inde, mais ça a été un grand traumatisme. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont descendus dans les rues des grandes villes indiennes pour manifester, pour dire ça suffit.
Eh bien, le 16 décembre 2012, donc, il y a une jeune fille qui sortait du cinéma. C'est un endroit, un cinéma où je vais souvent, en fait. Donc, dans le sud de Delhi, les quartiers plutôt riches, plutôt aisés. Et un bus s'est passé. Alors, ils ont appelé le bus. Ils sont montés dans ce bus, qu'en fait, une compagnie privée. Il y a beaucoup de petits bus, quoi. Et en fait, donc, le conducteur et ses copains étaient déjà bien ivres. Et là, donc, ce viol collectif
est meurtre, a commencé. Hein, elle en est morte.
Mort quelques jours plus tard, ça fait déborder le vase et les gens ont osé descendre dans la rue, en parler, parce que c'est vrai qu'en Inde, on ne parle souvent pas d'un viol, parce que le viol c'est le déshonneur pour la fille, hélas. Bien souvent les viols sont pas déclarés à la police, il n'y a pas de plainte. Et là voilà, ça a déclenché des manifestations monstres, ça a changé l'attitude des gens, l'attitude des autorités, pas toujours pour le meilleur j'ai envie de dire. Par exemple à New Delhi, les autorités ont fermé les boîtes de nuit une heure plus tôt. Punition pour ceux qui sortent.
Couvre-feu.
Au lieu de 2h du matin, c'est 1h du matin.
Mais qu'est-ce que ça a changé dans l'attitude aussi des jeunes qui sortent, qui ont envie de sortir, des jeunes femmes, des jeunes hommes?
Les gens ont un peu plus peur, et les femmes surtout. Je considère que vraiment New Delhi, c'est une ville sûre. Hein. Je veux pas que les gens aient cette impression que c'est pas du tout la capitale du viol. Hein. En termes de viol, peut-être rappelons à peu près les chiffres. On est à peu près au niveau de la France en termes de viol par habitant.
En proportion par rapport à la population.
Voilà, en proportion par rapport à la population. Alors, il s'agit à chaque fois des viols déclarés à la police. Donc, évidemment, il y en a beaucoup plus, mais il y en a beaucoup plus aussi en France. Mais en tout cas, on n'est pas du tout au niveau de l'Afrique du Sud où il doit y avoir 100 fois plus de viols. J'ai vérifié les chiffres juste avant de venir avec l'équipe. Donc 100 fois plus de viols déclarés en Afrique du Sud et à peu près 10 fois plus aux États-Unis. Donc voilà, cassons cette image d'une ville du viol. Après, c'est vrai qu'il y a des viols, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est vrai que aujourd'hui, bien certaines de mes amies, elles se baladent plus toutes seules en rickshaw.
Elles se font accompagner.
Après 10 heures, voilà, elles se font accompagner, elles prennent un taxi qu'elles connaissent. Donc voilà,
donc c'est la perception qui a changé finalement.
Exactement.
Les gens ont peur.
Exactement, les gens ont peur un peu, ça les empêche pas de sortir. Hein. Mais c'est vrai qu'à Bombay, par exemple, alors il y a ce côté bling-bling à Delhi, on le disait, et il commence à y avoir de plus en plus des mini-jupes, des choses qu'on voyait pas avant. Donc ça, c'est une évolution indépendante, je dirais. Mais c'est vrai qu'à Bombay, les femmes sont peut-être dans des tenues un peu plus légères. Il y a peut-être moins
Bollywood.
Ce sentiment, cette peur. À Delhi, il y a un peu ce risque. Même si, encore une fois, j'encourage les gens à venir voir cette ville et à venir danser à Delhi.
On est dans une ville qui tient encore par les castes. Qu'est-ce que ça a changé, cette affaire de viol aussi?
Moi, je me suis souvent posé la question de la dangerosité, de la sécurité à New Delhi, parce que moi, en tout cas, en tant qu'homme, je n'attache jamais mon scooter, par exemple, alors que, bon, à Paris, si vous faites ça, en une heure ou deux, c'est disparu, je ne sais pas, dans les villes africaines, mais voilà. En Inde, à New Delhi, personne n'attache son scooter, personne n'utilise de cadenas. Donc, ça vous dit bien, quand même, qu'il n'y a pas tellement de risques, il n'y a pas tellement de vols. Alors, qu'est-ce qui expliquait ça? Je pense qu'en fait, il y avait un contrôle social très fort en Inde. En fait, ce qui tient aujourd'hui l'Inde, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État qui est pas très fort, c'est la société. Donc, cette division par caste. Ce qui fait qu'un pauvre, en gros, n'oserait pas vous attaquer. Alors, évidemment, ça, c'est doucement en train de changer.
C'est
parce que les gens.
C'est passé en décembre 2012, cette étudiante qui a été attaquée par.
Par des gens d'une caste inférieure. Donc, je pense que la violence va augmenter comme l'Inde se développe. Parce que, tout simplement, bien, des pauvres, des gens, n'hésitent pas aujourd'hui, vont au-delà de leur caste sociale, de leur groupe social. Et donc, liberté, évolution, modernité va aller avec violence. Hélas, j'espère qu'on va pas arriver dans des scénarios comme certaines villes brésiliennes, par exemple. Mais évidemment, la violence va continuer à augmenter à New Delhi.
Allez, restons à Delhi by Night.
Qui ont régné pendant plusieurs siècles à New Delhi et Agra, où vous connaissez le Taj Mahal. Et ben de la même manière, il y a des monuments comparables au Taj Mahal un peu partout à New Delhi, ces tombes un peu mogoles, de style mogol. Et donc là, ce qu'on a entendu, c'est les chants d'un temple qui se trouve à Nizamuddin, dans le quartier donc de Nizamuddin. J'ai envie de le décrire un petit peu. Vous arrivez dans ce quartier, dans une rue normale, et puis tout d'un coup, vous rentrez dans une sorte de labyrinthe de petites ruelles. On vous demande d'enlever vos chaussures. Alors au début, vous disiez, mais à qui je vais laisser mes chaussures? Non, bah, vous le laissez là, faut faire confiance. Puis là, vous vous perdez dans les petits trucs qui se réduisent.
J'aime les gestes en même temps.
Désolé.
On est perdu avec vous, Constantin.
Et il y a des mendiants, vous êtes alpagués de partout. Et puis, vous arrivez au cœur de ce quartier, et là, il y a le Darga, c'est-à-dire le temple. Et le jeudi soir, c'est le moment où j'aime bien y aller. Il y a les chanteurs en fait qui donc chantent des chants soufis, de la musique, des instruments, des tablas, ces tambours indiens, ce djembé un peu indien. Mmh. Vous avez toutes sortes de choses un peu fantastiques, ésotériques, des femmes aussi en transe comme ça qui font des. Enfin, voilà, c'est un endroit assez exotique et ça, c'est le charme de New Delhi. En fait, New Delhi, c'est une ville de villages qui se sont agrégés. Il n'y a pas vraiment de centre, mais donc il y a plein de petits quartiers. Il ne faut pas hésiter à aller creuser, à aller découvrir. Mmh. Se balader à l'intérieur du quartier. Je vous le disais, on tombe sur une tombe moghole qui date du 16e siècle. Et puis, on peut découvrir des champs tout à coup. Enfin, voilà, plein de belles choses. Il y a plein de secrets cachés à New Delhi.
Constantin Simon, quand vous êtes loin de Delhi, comme là aujourd'hui, dans le studio de RFI, vous le vivez comment ?
Bah d'abord, tout d'un coup, j'apprécie la température agréable de l'été en France. Mais évidemment, Delhi reste dans mon cœur et je vis à Delhi. Je suis fier de vivre dans cette ville. Je l'aime. Delhi, c'est aussi la ville des saisons. Hein. On a parlé de l'été qui est très très chaud. Je voulais juste mentionner l'hiver qui est anormalement froid. Enfin, anormalement par rapport à la première fois que je suis arrivé en Inde. Donc la première fois que je suis arrivé à New Delhi, c'était en décembre 2007. Et là, je me suis retrouvé dans une ville froide.
Mais là, qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous êtes loin de Delhi ?
Cette fièvre, la cohue, la foule, le chaos. Le chaos.
Merci Constantin Simon de nous avoir fait aimer votre ville mal aimée, Delhi. Pour retrouver les aventures de votre personnage fictif, hein, il faut préciser Pierrot, qui est un reporter passionné, mais quand même assez lucide sur le métier en Inde et ailleurs. Je vous recommande donc, les voisins, la lecture de votre premier roman, Constantin Simon, India Express, paru aux éditions Le Passage. Merci beaucoup d'être venu dans le
studio Emmanuel.
De 7 milliards de voisins. Notre série d'été saison 3 s'achève aujourd'hui. Pas d'inquiétude pour prolonger ces tranches de vie dans les villes du monde. Je vous propose de réécouter la semaine prochaine quelques émissions de la saison 2. Pékin, ville sous cloche. Nouakchott, sortie du sable. Bruxelles, ville espiègle. Johannesburg, ville indomptable. Et dès lundi,
when Washington DC was established, it was in the middle of the country.
Vivre dans une ville paradoxe, Washington, avec Raphaël Rennes, ancien correspondant dans la capitale américaine pour RFI. D'ici là, vous n'hésitez pas à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Très bonne fin de semaine, les voisins et les voisines. À lundi, à Washington.